Alors, deux, trois mots pour me présenter. Donc, je suis sociologue de l'environnement, c'est comme ça que je me définis. Pardon. Donc, de l'Université de Strasbourg, donc de l'UMRSA, la Société Acteurs et Gouvernement en Europe. Donc là, je vais vous présenter un travail qui est peut-être un petit peu daté, car les projets, les terrains que je vais vous présenter ont certainement évolué depuis, qui date de 2015, donc qui était dans le cadre d'un programme Interreg, un programme à l'échelle du Rhin supérieur en partenariat avec l'Université de Karlsruhe, de Landau et l'Université de Strasbourg, sur la transition énergétique, et donc notamment sur les processus d'acceptation sociale donc des énergies renouvelables à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg pour les terrains que l'on va avoir ensemble. Alors bon, c'est un terrain un petit peu daté, donc qui date de 3 ans, car depuis je travaille un petit peu sur autre chose. Je travaille notamment sur le retour du lynx dans la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord en Palatinat. C'est tout aussi ce qui peut expliquer ma réaction un peu spontanée de ce matin par rapport à la notion de nature. Et je travaille aussi donc sur la vie faune migratrice et les zones humides. Voilà, donc de plus en plus, je suis amené à travailler sur, je pense qu'il y a des liens avec la présentation de Laure, à savoir sur comment est-ce que les savoirs de la nature se façonnent et se forgent dans des contextes de socialisation que je nommerais de socio-écologiques. Donc vraiment essayer de rompre avec une vision anthropocentrée dans la manière dont les savoirs se construisent, c'est-à-dire que finalement en pratiquant, dans un rapport direct et concret aussi au milieu, à la nature, nos savoirs de la nature peuvent aussi se forger dans cette relation de médiance, dans ce rapport concret et direct. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler pour cette présentation, je ne vais pas vous parler de lynx et ni d'avifaune migratrice, on va plutôt parler de transition énergétique, et notamment sur la participation et l'implication des habitants à la transition énergétique. Alors, pourquoi cette problématique? Parce qu'on est dans un contexte où la participation est quand même devenue une norme de l'action publique environnementale, de les politiques énergétiques comportent désormais des dispositifs dont le rôle, on va dire, est d'associer les acteurs, les usagers au processus dit transitionnel. Alors les maîtres mots se réfèrent à la sensibilisation, à l'implication, aux éco-gestes, aux éco-attitudes, donc c'est-à-dire de socialiser finalement les acteurs aux problématiques énergétiques en les incitant à adopter donc des pratiques qualifiées de durables. Alors à titre d'exemple, on peut citer donc toutes les pratiques de maîtrise de l'énergie, comme celles que j'ai citées auparavant, donc les éco-gestes, les éco-attitudes, mais aussi tous les dispositifs de soutien à la production d'énergie, comme le tarif de rachat préférentiel de l'électricité verte, notamment en France. Donc je propose de regarder ces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables comme des objets intermédiaires, donc pour reprendre le terme de Catherine Mougenot, c'est-à-dire donc des objets qui permettent de figurer la perméabilité des frontières entre nature et société, c'est-à-dire entre pratiques sociales et réchauffement climatique. Donc, à savoir donc, comment finalement ces instruments, ces objets permettent d'associer les acteurs à la transition énergétique, mais aussi de les socialiser, de les familiariser donc aux problématiques de réchauffement climatique. Donc pour ce faire, on va retenir trois exemples, trois instruments différents. Alors le premier instrument, donc on va reprendre un peu des éléments peut-être de la présentation de Laure, à savoir donc on va d'abord travailler sur l'éolien citoyen dans une commune rurale de montagne en Alsace. Et on va voir comment le dispositif type éolien citoyen permet-il d'associer les habitants à la transition énergétique. Puis, je vais me baser sur une comparaison à partir de deux sites dans l'Eurométropole de Strasbourg, à savoir un quartier d'habitat social, où finalement un bailleur social a décidé aussi de changer donc, la chaudière, de la convertir en système à cogénération et d'accompagner donc les pratiques de consommation de toute une politique basée sur une responsabilisation des usages, sur une sensibilisation aux éco-gestes, aux éco-attitudes. Et je vais comparer ce terrain avec un autre terrain qui est une petite commune qui est au sud de l'Eurométropole de Strasbourg, qui s'appelle Plopsheim, qui est plutôt un quartier beaucoup plus marqué, caractérisé par une zone pavillonnaire, type propriétaire, où là les habitants sont fréquemment démarchés pour l'installation, par exemple, de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. Et donc, à travers ces deux terrains, on va notamment essayer d'investiguer la question des inégalités écologiques, mais je vais expliquer ça plus tard. Donc, on va essayer donc d'interroger la dimension participative de ces différents instruments, de ces différents projets, à un double niveau. Premièrement, en quoi ils permettent d'impliquer les habitants, mais aussi donc de concevoir des modes de gouvernance qui rendent possible une appropriation sociale de la question énergétique et plus largement des problématiques environnementales. Donc je vais me baser sur trois réflexions. Première réflexion, le registre de la transition est-il formulé autour d'un référentiel technique, autour d'un outillage technique, et donc ce registre fait-il sens au plus grand nombre d'habitants, à un plus grand nombre d'habitants? Finalement, quelles sont les possibilités d'action et d'implication que ces instruments offrent aux acteurs, aux habitants? On va voir aussi que face au discours qui avance la participation citoyenne comme un pilier du développement durable, les instruments qui prétendent finalement associer les habitants à tel ou tel projet d'énergie peuvent au contraire renouveler certaines formes d'inégalité, c'est-à-dire exclure la possibilité pour certains acteurs de contribuer à la production d'un bien commun que serait l'énergie. Donc on verrait apparaître des formes d'inégalité écologique, comme le définissent Guillaume Faburel notamment et Stéphane Labranche. Et autre point, c'est on va analyser ces dispositifs incitatifs comme autant de médiations qui visent à reconstruire un lien social distendu entre la nature et la société. C'est-à-dire, est-ce que ces dispositifs permettent-ils de rematérialiser la capacité d'un agir sur l'environnement, sur la transition, comme le formule notamment Lydie Lègle. Voilà. Alors, avant... Oui, c'est bon, ça... ça a changé. Avant, ce que j'aimerais aborder, mais je crois que ça a été dit ce matin, donc pour économiser du temps, je vais faire très très vite, c'est qu'on ne peut pas parler de transition au singulier. À mon sens, il existe différents processus transitionnels, différentes manières d'envisager la transition énergétique, parce que comme vous le savez, le terme de transition n'est pas neutre à mon sens, comme le dit aussi Yannick Rumpala, c'est-à-dire qu'il reflète une orientation qui engage des sociétés carbone énergivores à corriger les menaces écologiques, c'est-à-dire que le caractère transitionnel signifie que le changement est piloté, le changement est organisé, il est gouverné, il est piloté entre les relations entre environnement et économie et ajuste la trajectoire de l'économie de marché afin de la rendre moins impactante, moins énergivore sur les écosystèmes. Donc quand on parle de transition, donc il faut plutôt penser en termes de cadre et ce cadre fixe donc des orientations qui définissent ce qui peut être négocié de ce qui ne l'est pas. Donc finalement, les débats sur la transition, à mon sens, sont centrés dans un certain rapport, une certaine dialectique entre rupture et continuité avec le modèle en place. Et notamment, Karl Werner Brandt propose une typologie entre deux modèles. On a déjà parlé ce matin, Laure en a parlé aussi. Donc, premier modèle, c'est plutôt des solutions qui seraient régulées par le marché, où l'innovation technique cherche à concilier les enjeux climatiques et les enjeux économiques. Donc là, on serait davantage dans le paradigme de ce que Marc Mormont appelle la modernisation écologique, où finalement, le développement durable, la transition énergétique serait une nouvelle niche économique, où vient se fixer donc une nouvelle forme de croissance, une croissance verte. Et autre modèle que Karl Werner Brandt nous présente aussi, ça serait plutôt donc une logique de sobriété, où donc là, on voit apparaître des initiatives citoyennes, comme l'a expliqué avant Laure, en l'occurrence donc des coopératives énergétiques, avec aussi donc une vision, une réflexion plus transversale sur les modes de vie, comme tu l'as très bien dit aussi, où l'autonomie énergétique serait justement une vision, un symbole de militantisme, c'est-à-dire de se réapproprier la question de l'énergie, sortir des logiques de filière. Donc quand on parle de transition énergétique, à mon sens, il faut partir du principe que ce n'est pas un processus qui est univoque et stable. Donc, c'est un processus qui fait débat. Les collectifs sociotechniques vont donner aux technologies énergétiques une flexibilité. Donc, il faut voir les innovations énergétiques comme une technologie flexible, comme le dit Madeleine Akrich notamment. C'est-à-dire qu'ils soit peuvent renforcer le déploiement de technologies vertes ou favorisent donc l'émergence d'initiatives citoyennes. Donc c'est pour ça que moi je parlerai davantage de transition énergétique, donc au pluriel, pour montrer qu'il s'agit d'un processus qui n'est vraiment pas du tout stabilisé, mais il y a vraiment différentes formes d'acception, différentes formes d'orientation que les collectifs sociotechniques peuvent donner aux innovations énergétiques. Donc il faut bien retenir, à mon sens, que l'idée de Malena Krisch est assez intéressante de voir que les technologies énergétiques sont flexibles et peuvent soit s'inscrire dans la continuité d'un modèle centralisé et devenir une énergie de substitution finalement comme les énergies fossiles, ou soit peuvent initier un modèle, sont un potentiel de changement pour réellement décentraliser les systèmes de production et de distribution de l'énergie et donner une autre valeur aussi donc à l'énergie, comme tu l'as très bien dit avant. Donc je vais passer ça. Mais comme vous le savez très bien, la réalité n'est pas grise, et que certes on peut avoir une régulation par le marché, donc une entrée des énergies renouvelables par le marché, aussi par les coopératives énergétiques, donc par les initiatives citoyennes, mais quelquefois on a aussi une hybridation des modèles qui existent à l'échelle des territoires. C'est-à-dire finalement des projets d'énergie citoyenne, d'énergie renouvelable, qui à la fois donc, s'appuient sur des systèmes fortement centralisés et qui en même temps vont essayer d'introduire une culture de la coopérative, donc des coopératives énergétiques. Et c'est exactement donc l'exemple type que je vais vous présenter maintenant, c'est un essai l'éolien citoyen sur une commune rurale d'Alsace, de montagne, qui est vraiment l'exemple type d'une hybridation de ces processus qui existent à l'échelle des territoires. Donc des systèmes énergétiques que je nomme d'hybrides, qui empruntent à la fois donc à la culture des coopératives et en même temps au modèle énergétique centralisé. C'est-à-dire qu'on reste dans une alimentation, une distribution de l'énergie qui est produite localement, mais par le réseau existant. Donc, par rapport à ce cas d'étude, il faut savoir que la zone d'implantation de l'éolien terrestre, donc la ZDET, a été déposée en 2008 et concerne donc 6 communes, dont la commune de Salles qui est donc... qui est situé dans le Bas-Rhin, qui est situé à 700 mètres d'altitude. Et donc, sur les 10 éoliennes qui vont être installées, il y a 2 éoliennes d'une puissance de 2 MW qui vont être gérées via un financement participatif, donc via un actionnariat populaire. Alors là, vous voyez les modalités d'organisation donc de l'actionnariat populaire. Donc, il y a la création d'une société d'économie mixte donc qui permet l'achat de ces 2 éoliennes sur ces 10. Et la commune, via donc la société d'économie mixte, possédera 40% des parts. Les autres 60% sont et ont été financés depuis donc le terrain via donc un financement participatif et via un actionnariat populaire. Alors, l'objectif est bien d'intégrer donc les habitants du territoire au processus transitionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir actionnaires et donc contribuer à la transition énergétique. Mais il faut aussi savoir, comme vous le voyez sur la gauche de la slide, c'est qu'il y a une particularité de ce terrain, c'est que c'est une commune relativement pauvre par rapport à l'ancienne région Alsace. Il y a un taux de chômage relativement important. Pareil aussi pour le niveau de diplôme, il y a de forts contrastes par rapport au restant de la région. Et donc, à partir de ce terrain, on a mené une enquête qualitative par entretien. Et l'étude de terrain s'est fondée sur les acteurs, les porteurs de projets qui ont contribué donc à construire, à organiser, à piloter cet actionnariat populaire. Donc, d'un côté, donc, on a mené une enquête de terrain auprès donc, des porteurs de projets, je vais vous expliquer ça, et d'un autre côté, on a aussi mené une étude de terrain auprès des habitants, donc, à savoir une trentaine d'entretiens auprès des habitants de cette commune pour savoir comment est-ce qu'ils réceptionnaient, comment est-ce qu'ils avaient compris le mécanisme de financement participatif. Donc tout d'abord, donc, comme je vous l'ai dit, les entretiens ont été conduits donc, auprès des porteurs de projets, donc à savoir le maire de la commune, mais aussi l'adjoint donc, qui était en charge du dossier, qui est un retraité donc, d'EDF notamment, donc il y avait aussi une forme d'expertise dans le domaine, mais surtout ce qui a été intéressant, on a mené aussi donc, des entretiens auprès des réseaux et notamment auprès des associations spécialisées qui sont à la fois locales mais aussi nationales et qui interviennent finalement dans le pilotage donc, de projets citoyens. Alors, ces associations sont, peut-être que vous les connaissez, sont notamment RCSOL. Je ne sais pas si... Bon. Alors, c'est Énergie Renouvelable Citoyenne et Solidaire, notamment. C'est aussi Alsace Énergie Partagée, qui est une association locale donc, d'énergie partagée. Donc, il faut savoir que ce sont des associations qui sont organisées selon un réseau fédératif, c'est-à-dire qu'il y a des grandes associations régionales ou nationales qui constituent un noyau dur en support aux initiatives territoriales et qui permettent une structuration des savoirs et des compétences. Donc, ce qui est assez intéressant déjà, c'est qu'il ne s'agit pas d'acteurs ordinaires, d'acteurs lambda, mais plutôt réellement d'un collectif sociotechnique qui exerce réellement un rôle de consultant en ingénierie de projet d'énergie renouvelable, mais aussi en ingénierie de projet de financement participatif. Donc ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, c'est réellement une montée en expertise de ces associations qui sont spécialisées dans le pilotage de ce type de projet. Et cela peut avoir un effet. Ça peut avoir un effet sur les modalités d'organisation de l'instrument qui peuvent générer donc des inégalités d'implication. Alors pourquoi ? On a remarqué que finalement il existe un marché de la participation. C'est-à-dire que l'actionnariat est devenu, l'actionnariat populaire, le financement participatif, est devenu une prestation sous la forme d'un kit participatif que l'association peut diffuser à différents projets. Donc c'est vraiment, c'est devenu une, on va dire, une prestation transférable et reproductible d'une commune à une autre. Le modèle d'intéressement peut devenir, on va dire, une grille de lecture commune. Donc il y a une sorte de normalisation, si vous voulez, de la participation. Autre point, on a aussi remarqué qu'on reste finalement dans un entre-soi des concepteurs. C'est-à-dire que les modalités d'implication sont réduites finalement à la souscription d'une action et finit par entretenir l'illusion selon laquelle l'outil peut suffire à lui-même et qu'il incarne à lui seul la participation. C'est-à-dire que la participation est alors limitée à la diffusion d'une méthode qui repose, comme le dit Jean-Baptiste Combi, sur un contrat de lecture dans lequel les acteurs sont considérés comme un public qui est homogène et stable. Autrement dit, les modalités de la participation reposent sur un usager qui est normalisé, c'est-à-dire qui serait préalablement familiarisé à ses savoir-faire, à ses savoir-être, finalement, de la participation. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'enquête de terrain à l'échelle de la commune de Salles et auprès des habitants nous a montré que la souscription d'une action, voire l'existence même de l'actionnariat populaire, ne va pas de soi pour les habitants, surtout pour les habitants qui ne sont pas intégrés dans ces réseaux et qui ne sont pas du tout familiarisés à ces réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs associatifs qui vont promouvoir l'outil font l'économie d'une explication, on va dire, du mode d'emploi participatif. Or, la possibilité donc de devenir actionnaire nécessite aussi la mise en œuvre d'un savoir-faire, de la participation, et finalement, il ne suffit pas simplement d'adhérer ou non à un instrument pour participer, pour s'impliquer, mais l'implication, la participation nécessite, on va dire, un acte de connaissance, un acte de reconnaissance. Et ça s'est vraiment vu à travers notamment la manière dont les habitants se sont appropriés, on va dire, le dispositif, car, par exemple, beaucoup d'habitants partaient du principe que les deux éoliennes qui étaient financées par financement participatif allaient alimenter en énergie des bâtiments de la commune, comme la bibliothèque, comme la mairie. Or, l'énergie qui est produite est donc réinjectée dans le réseau global, et finalement, il y a bien donc, perception de dividendes par rapport donc, à l'électricité qui est produite et qui est rachetée par EDF Énergie Nouvelle.